temps de louange ne s'arrête pas maintenant. On passe à la suite du programme, mais le temps de louange continue. Nos cœurs continuent d'être captivés par qui il est. Amen. Amen. Les enfants, à tout à l'heure. Doucement, s'il vous plaît, pas de blessés, on est assurés, mais quand même, s'il vous plaît, voilà, baissez la tête. Merci à tous ceux qui vont s'occuper des enfants aujourd'hui, pendant cette demi-heure. Et puis, comme vous le savez, ça sera suivi par l'Assemblée Générale, exercice légal, mais qui va être une occasion de régal. La rime n'était pas prévue, mais ça marche. Donc surtout, ne quittez pas la pièce à la fin du culte. Il y aura des bulletins d'adhésion pour ceux qui désirent devenir membres. Vraiment, est-ce qu'on peut applaudir l'équipe de louange, vraiment les remercier? Rendons-nous compte du privilège qu'on a d'être conduits de si belle manière dans la présence de Dieu. Waouh! Merci Seigneur. Écoutez, il ne va pas y avoir forcément d'annonce aujourd'hui. On n'a pas des tonnes de temps. Donc allez sur le site internet égliseconnect.fr. Tout est là. Tout est à jour. Estelle tient tout magnifiquement à jour. Chaque semaine, vous avez tous les messages qui sont en ligne. Écoutez-les. Surtout les miens, c'est très important. Non, je plaisante. Je blague. Mais c'est vrai que j'ai réalisé, on a eu la chance vraiment d'avoir beaucoup d'invités ces derniers temps. Et quel régal de... J'étais pas là quand Daria a prêché. Le lundi matin, je trépignais que le message soit sur le site pour vite l'écouter. Qu'est-ce que je me suis régalé. Donc voilà, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, un petit témoignage à ce sujet, on a passé 2 heures avec Daria et Zimone, son mari, avec Emmanuel, il y a 2 jours. Et juste, elle me disait à combien son passage ici l'avait impacté. Elle était bouleversée et même son mari m'a dit, purée, c'est la première fois qu'elle me dit ça en rentrant d'un voyage dans une autre église. Donc pour vous honorer et pour vous remercier aussi que voilà ce qu'on vit ici, c'est vraiment beau, c'est vraiment précieux. Et même des gens qui sont extraordinaires, qui vivent des choses extraordinaires ailleurs, viennent ici et sont aussi impactés. Donc merci Seigneur. Amen. Et du coup, ce matin, j'ai le privilège de continuer un peu ce que Rémi a brillamment apporté dimanche dernier, alors que nous fêtions la Pentecôte. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi que la Pentecôte, c'est pas juste un jour, un dimanche par an, c'est tous les jours la Pentecôte. Amen. Tous les jours, c'est la Pentecôte. Tous les jours, le Saint-Esprit est là, prêt à se déverser sur nous à chaque instant. Amen. Depuis que le voile a été déchiré, on a accès au lieu très saint. Il n'y a plus de séparation. Et pour moi, c'est un régal ce matin de continuer sur ce que Rémi vous a dit la semaine dernière et de parler d'un des sujets qui me passionne le plus, c'est l'Église. Parce que vous savez que le jour de la Pentecôte a été le début de l'Église. On dit Église primitive, j'aime pas toujours ce mot parce que c'est comme si, vous savez, c'était les débuts, ils n'avaient pas trop compris. Non, c'est la naissance glorieuse de l'Église. Amen. La Pentecôte, la fête des cieux ouverts. Et depuis ce jour, il y a un ciel ouvert permanent depuis ce jour de la Pentecôte. Et nous avons le privilège de vivre dans cette époque-là, de ce ciel ouvert permanent. Amen. Il est descendu sur les 120, vous savez, qui étaient dans la chambre haute, vous avez vu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem, c'était cette fête de la Pentecôte, et les gens ne comprenaient pas toutes ces langues de feu, toutes ces personnes qui commençaient à parler dans leur langue d'origine. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre s'est tenu sur le parvis du temple et a prêché ce message glorieux où il a expliqué, en fait, il a fait de la pédagogie en expliquant, non, ils ne sont pas ivres, voilà ce qui se passe, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et là, toujours comme Jésus fait aussi, il a resitué le contexte en recitant les prophéties de l'Ancien Testament, en passant par Joël, en passant aussi par le psaume 16 de David. Vous savez, et ce qui est incroyable, c'est que quand Pierre se tient devant ce temple, 3 000 personnes qui étaient dans l'étonnement, 3 000 personnes qui ne comprenaient pas, d'un coup 3 000 personnes croient et placent leur confiance en Jésus. Et voilà le début de l'Église. C'est pas grave, je suis un peu perdu dans mes notes, mais je veux aller assez vite sur cette partie-là pour qu'on parle d'autres choses après. Ils étaient 3000, donc ça, c'est la naissance de l'église de Jérusalem, une église locale. C'est la naissance de l'église globale mondiale, mais localement, l'église de Jérusalem. Et quelques chapitres plus loin, je crois que c'est acte 5, il nous est parlé de 5000 personnes. Donc ce chiffre, en quelques semaines, est passé de 3000 à 5000. Imaginez un peu le boom que ça a été. Et j'ai vraiment à cœur qu'on relise un petit peu un passage de ce moment-là. Voilà. Donc ils étaient tellement étonnés, je vous disais, tous ces auditeurs, ces 3000-là, tellement étonnés. Voilà ce qu'ils disent. Donc ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» hein ? Et combien, vous savez que la foi, ce n'est pas juste une histoire de croire, c'est aussi une histoire ensuite de mettre en pratique et de faire. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et là, bien sûr, ils leur disent, Pierre leur répondit, « Changez !» D'autres versions disent, « Repentez-vous !» Ça veut dire la même chose, en fait. « Changez !» Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ensuite, très important aussi, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, et pour ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Donc c'est important de réaliser, parce qu'on a plein de mauvaises conceptions de l'Église dans notre société aujourd'hui, mais que d'entrée de jeu, le but de l'Église est missionnaire. C'est pour vous, mais c'est aussi pour vos enfants. Premièrement, ce qu'on a à vivre dans notre foi, etc., c'est d'abord en famille, c'est d'abord avec nos enfants, très important, mais ensuite c'est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ce message est tellement puissant qu'il a la puissance de changer le monde. Amen. Et donc voilà comment se passe concrètement l'implantation de l'église de Jérusalem. Vous savez que dans cette église, on a à cœur d'implanter plusieurs autres églises. Ben c'est génial de pouvoir regarder concrètement comment ça s'est passé à ce moment-là. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours d'un commun accord. Vous savez, avec beaucoup d'amour, les amis, mais dès qu'on doit faire une réunion, souvent une braise ou une réunion ensemble, on se dit « Ouh là là, mon agenda est très chargé ». Tous les jours d'un commun accord. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « tous les jours » ? Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, c'est braise tous les soirs, bien sûr, bien entendu. Je plaisante, bien sûr. Ils se retrouvaient dans la cour du temple. Je plaisante, mais quand même. Avec simplicité de cœur, ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Et donc c'est là acte 4.4, pardon je me suis trompé tout à l'heure, c'est acte 4.4, le nombre des croyants passe de 3000 à 5000. Et du coup, j'ai vraiment eu à cœur qu'on voit juste très vite quelques caractéristiques de cette église naissante qui est en fait exactement la même que nous. Nous sommes la suite, bien sûr, hein, de cette église, parce que c'est très important de réaliser, nous sommes pollués un petit peu par la pensée grecque, par aussi la pensée de post-chrétienne de la société dans laquelle nous vivons. Mais dès le début, si on regarde bien, l'Église grandit très très vite. Pourquoi ? L'Église, en fait, est un organisme, plutôt que le mot organisation, bon, qu'on utilise aussi parce qu'il y a de l'organisation, mais l'Église est un organisme vivant qui croît naturellement. La croissance de l'Église, ce jour-là, est-ce qu'elle était forcée ? Non, ça s'est fait tout naturellement, il y avait des ingrédients particuliers. Alors je sais, beaucoup vont dire oui, parce qu'ensuite, de Jérusalem, il y a eu plein d'implantations d'autres églises dans les villes qui entouraient, et toujours on va dire oui, mais c'est parce qu'il y a eu la persécution. Et effectivement, quand vous lisez le livre des Actes, la persécution grandit. Au début, il y a beaucoup d'arrestations des apôtres par les chefs religieux, chefs juifs, et ils se retrouvent devant le Sanhédrin, qui sont à chaque fois un peu embêtés, ils ne savent pas trop quoi faire avec ces hommes qui font tant de miracles. Et ça culmine, bien sûr, à Actes 7 et 8, où il y a Étienne, le premier martyr, qui est bien sûr lapidé. Et à partir d'acte 8, c'est là que les chrétiens s'en vont et du coup, ils ne savent pas quoi faire d'autre que d'implanter des églises. Du coup, il se met à y avoir plein d'églises. Mais j'aimerais resituer le plus important. Est-ce que c'est premièrement la persécution qui fait que l'église s'est développée et que beaucoup d'églises ont été implantées? Et bien moi, je crois que non. Il faut être vigilant dans quel ordre on met les choses. L'église a eu cette croissance incroyable et rapide d'un coup. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas par défaut, ce n'est pas par la persécution que l'Église a grandi. Bien sûr, ça a joué, mais c'est premièrement parce que la puissance de Dieu est venue dans les hommes, les a tellement chamboulés à l'intérieur, transformés, donné tout un tas de dons de l'Esprit, que là, d'un coup, ils sont devenus d'autres personnes. On dit toujours « up and out », vertical, intérieur, extérieur. Ils étaient dans la chambre haute, verticale. Ils ont été complètement transformés. Vous regardez comment Pierre et ses amis étaient avant et après ce moment-là. Ce n'est plus les mêmes personnes. Transformées, dimension intérieure, et tout de suite, dimension extérieure, on va conquérir le monde pour l'Évangile. Amen. Donc c'est d'abord parce qu'il y a eu cette effusion de l'Esprit qui les a juste transformés, et c'est devenu quelque chose, un organisme naturel en fait. Donc on a dit le up, louange et prière dans la chambre haute, et ingrédient essentiel si on veut que l'Église grandisse. Et là les amis, attention, je ne parle pas de grandir, on n'est pas là à vouloir faire une méga church, on n'est pas là. Les amis, vraiment j'ai ça sur mon cœur de vous dire que peu importe la forme n'est pas le plus important. L'important dans les églises, c'est qu'est-ce qu'on vit. Moi, j'aime nos grands rassemblements. Là, on est assez nombreux quand même dans cette pièce ce matin. Quand on chante a cappella, vous vous rendez compte de cette puissance qu'il y a quand le peuple de Dieu est assemblé pour le louer ensemble. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'on vit dans les braises, ce qu'on vit dans les petits groupes, les Aquiles et Doux, etc., c'est aussi indispensable. N'opposons pas les modèles. Beaucoup veulent opposer le modèle d'église de maison au modèle des méga-church. Ça n'a pas de sens. L'important, c'est qu'est-ce qu'on vit dans ces lieux. C'est qu'est-ce qu'on vit. Des fois, certains, l'été dernier, on faisait des cultes dehors. C'était merveilleux, on n'a pas besoin d'un toit. Mais l'hiver, quand il fait froid, pour se rassembler, c'est quand même plus pratique. Donc, essayons de fuir ce côté importance de la forme pour s'attacher vraiment au fond. Qu'est-ce qu'on vit? Dimension verticale, louange, adoration, prière. Ensuite, les 120 sont transformés et la création et la croissance rapide de l'Église. Retenez-vous bien, up, in, out. C'est toujours ce schéma qui se répète avec Jésus. Et donc, il y a aussi quelque chose de très important. Je vous ai parlé du Saint-Esprit. Ils étaient continuellement remplis de l'Esprit. Et il y a d'autres moments dans les actes, vous pouvez regarder acte 4, 31 par exemple, où c'est comme si il y a une nouvelle Pentecôte, de nouveau les disciples sont assemblés et de nouveau la terre tremble. Ça veut dire que on va sacraliser le jour de la Pentecôte, qui était vraiment un jour très important, mais comme je vous l'ai dit, c'est tous les jours, ces tremblements de terre, ces manifestations incroyables de l'Esprit ne se sont pas produits qu'une seule fois. C'est, d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote du jour, vous savez, où malheureusement il y a eu ce tremblement de terre à Auteuil et à Montélimar. Et Olivier, je crois, avec sa famille, était en train de louer Dieu. Ils étaient tellement à fond dans la louange, d'un coup, la terre s'est mise à trembler. Ils ont dit « Oui, c'est la Pentecôte à nouveau !» Mais c'est pas sympa, les gars. Il y a des maisons qui ont été détruites. Franchement, vous auriez pu louer un peu moins fort. Non, je fais une blague avec ça, mais beaucoup de gens ont eu des gros soucis de maison. Donc, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve beau leur réaction de dire « Ah ben oui, on est en plein dans la louange, l'adoration, la terre tremble. » Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'attendre à ce que ces choses-là se répètent. Donc, comme on l'a dit, et Actes 5, 13, 42 le répète, grand rassemblement dans la cour du temple, des très grands rassemblements, des milliers de personnes, mais aussi dans les maisons, au quotidien, dans les maisons. Les deux sont très importants. Il y avait beaucoup d'obéissance qui étaient là, il y avait les apôtres qui prêchaient, qui faisaient beaucoup de miracles, et il y avait aussi beaucoup de partage et de dons financiers. Et là, pareil, notre cœur pour Dieu, notre cœur pour l'Église devrait se traduire naturellement par nos dons financiers. Nous n'avons pas honte de prêcher la dîme, mais pas comme un chiffre arrêté, 10% tatatac, mais c'est que ces 10% représentent toutes mes finances. Et oui, je les donne avec Dieu par la foi, parce que moins de 10%... Alors, si vous ne donnez jamais rien, commencez par donner 1%, 2%, 3%, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si à partir de 10%, il y a ce comment dirais-je plafond, enfin ce que vous voulez, où là d'un coup ça commence à faire une somme importante sur mon budget. Donc là d'un coup il faut que je dépende de Dieu, parce que sinon je ne sais pas comment je vais finir le mois. Donc ça c'est important de vraiment cette dépendance à Dieu. À l'époque, eux vendaient tout ce qu'ils avaient et partagée pour le bien commun. Donc encore une fois, on n'est pas sur des chiffres et sur des arrêtés sur des pourcentages, mais on est dans ce truc de je viens et je donne à Dieu, je donne à la communauté. Et en plus, super dans l'église, je peux donner, mais ce n'est pas moi qui décide où va aller l'argent. Yes ! Excellent ! Génial ! Parce qu'on a tellement cette habitude de contrôle que ça nous fait du bien des fois quand ce n'est pas nous qui décidons. Si nous, ça tombe bien, il y a l'AG, vous verrez ce qu'on a fait de votre argent. Aujourd'hui, c'est parfait. Et du coup, il y avait quand même ce leadership qui était important. Les apôtres, il y avait vraiment cet enseignement et les gens étaient assidus, comme on vient de le lire, à l'enseignement des apôtres. Et le leadership n'est pas un gros mot. C'est important qu'il y ait des bergers, c'est important qu'il y ait des leaders et c'est important que nous nous soumettions à des autorités. Ça, c'est vraiment un principe biblique aussi qui était appliqué et qui a fait que cette église a très vite grandi. Et ensuite, comme on le sait, il y a eu cette persécution qui est venue. Et oui, Dieu utilise la persécution pour développer ce qu'il veut faire. Et combien de fois dans nos vies, des fois ce n'est pas de la persécution, des fois c'est juste des événements qui se passent comme ça, mais le fait d'être défié dans nos vies va nous pousser encore une fois à dépendre de Dieu. Et là, d'un coup, on va vivre des choses extraordinaires. Donc bien sûr, on ne recherche pas la persécution, on n'est pas maso, mais il se trouve que quand on est défié, eh ben, là on met notre foi en Dieu et souvent c'est là qu'on le voit faire des choses extraordinaires. Amen. Donc la parole se répand en Judée, à Chypre, à Césarée et jusqu'au développement de la grande église d'Antioche, là, qui était vraiment une méga church pour le coup, une base apostolique très très importante de laquelle plein d'autres églises vont être implantées. Et moi j'avais vraiment, et c'est pas juste parce que c'est mon dada, c'est ma passion, je pense que c'est la passion, ça devrait être la passion de tout chrétien. Les amis, l'église locale, c'est le plan de Dieu pour manifester son royaume pour la terre. Amen. Les ministères para-église sont très importants, très importants. On est en lien avec eux, on travaille. Tout ce qu'on peut faire qui n'est pas inclus dans une dynamique d'église locale, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de souci. Mais les amis, là où deux ou trois d'entre vous sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église, qu'est-ce que ça veut dire ? Ecclesia, ça veut dire ceux qui sont appelés, et plus communément en latin, ça veut dire l'assemblée. L'église, c'est quand on est assemblé. Et l'église, c'est quand je crois que seul, c'est bien, mais quand je suis assemblé avec mes frères, c'est excellent. Et là, il se passe quelque chose. Là, on peut vivre le royaume ensemble, et là, on a une force incroyable et contagieuse même. C'est juste le plan de Dieu. Si vous regardez le Nouveau Testament, il y a tout ce livre des actes incroyable. Dès le livre des actes, il y a cette multiplication de communautés sous diverses formes qui sont implantées. Et ensuite, tout le reste du Nouveau Testament, la plupart en tout cas, ce sont des livres, des lettres adressées à ces églises pour la plupart. Et c'est vraiment important de le réaliser en faisant partie, parce que souvent on parle de l'église universelle avec un grand E, sauf que l'église universelle avec un grand E n'a pas de sens si elle ne se manifeste pas concrètement par des églises locales. Et bien sûr, tout ce qui est ministère, tout ce qui est autre chose fait partie de l'église universelle. Mais le plan de Dieu pour amener son royaume sur la terre, c'est l'église locale. Et si vous êtes là ce matin, c'est que vous croyez à ça et c'est extraordinaire. Merci Seigneur pour son église, son épouse. Hein, vous savez, pour ceux qui étaient à la soirée des nouveaux, Dieu ne vient pas rechercher des personnes isolées. Il vient chercher son épouse, il vient chercher cette multitude d'églises locales. Et le dauphin qui représente Jésus, pour ceux qui étaient là vendredi soir, il vient se marier avec son épouse, cette mariée vêtue d'une robe blanche éclatante. Et ce qui est écrit dans la parole, qui vient chercher son épouse, glorieuse, radieuse, sans tache ni ride. Amen. Laissons-nous encore, les amis, captivés par l'amour de Dieu pour son église. C'est pour elle que Jésus a donné sa vie. Donc, ça passe trop vite les minutes. On a fini par ce côté leadership avec les apôtres. Et c'était rigolo il y a quelques semaines parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont présents dans cette salle où on a rendez-vous après pour un repas aux chaînes de Mamré. Et on a appelé ça un repas pour les leaders. Et c'est rigolo parce qu'en gros, par leader, en fait, on a envoyé ce mail, cette invitation à tous ceux qui servaient activement dans l'église, tous ceux qui étaient dans un planning de quelconque partie de l'église. Et plusieurs n'ont pas compris. Donc on a compris, on a eu une discussion assez intéressante entre responsables, où on a compris qu'il y avait peut-être une incompréhension dans la communication. Mais je pense qu'il n'y avait pas qu'une incompréhension dans la communication. Je pense que, et d'ailleurs ce repas va être excellent cet après-midi, si vous voulez y être l'an prochain, il n'y a pas de problème, rejoignez une équipe pour servir dans l'église et vous aurez l'invitation aussi. Et ce n'était pas qu'un problème de communication. Et là je voulais vous parler, on a parlé de l'importance du leadership, qu'en fait le leadership n'était pas que l'affaire des apôtres. Pourquoi ? L'Église est un organisme vivant qui nécessite que chacun prenne sa place. Chacun prenne sa place. Amen. C'est la seule organisation qui existe pour ceux qui n'en font pas encore partie. Elle est missionnaire par nature. Et ce n'est pas l'affaire uniquement des apôtres, uniquement des responsables. Les 120 qui étaient dans cette chambre haute ont vite été dépassés par une multitude de gens qui se sont mis à implanter des communautés de partout dans la région et ensuite plus loin encore. Donc, non, il y a différents ministères, donc certains sont appelés à certaines choses, et différents dons aussi. Mais chacun doit participer. Et ce n'est pas chacun doit, c'est tu as été créé pour cela. Tu as été créé pour participer. Il y a des dons en toi, il y a un appel sur ta vie qui est absolument unique. Personne ne peut le remplir à ta place. Et d'être assemblé en église locale comme ça, justement, ça va être un lieu où tu vas grandir dans tes dons, grandir dans ton ministère et pouvoir l'exercer. Amen. Vous n'avez pas l'air d'un enthousiasme exceptionnel, peut-être parce qu'on a commencé un peu plus tôt. Non, mais je sais que de cœur vous êtes avec moi, je le sais. Donc, Éphésiens 4, vous connaissez bien ce passage. C'est Jésus, c'est lui, il est pas, quand c'est lui, c'est Jésus là. Il a fait don de certains hommes, donc c'est Jésus qui a fait don. Comprenez, c'est Jésus, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes. Donc, ça veut dire que le ministère, là, il est parlé des cinq ministères, il a fait don de ses hommes. La différence entre un ministère et un don, c'est que dans le ministère, c'est la personne elle-même qui est le don. Ça veut dire que la manière dont Dieu t'a créé, ton caractère, la manière dont tu réagis dans certaines situations, ce que tu aimes faire ou pas faire, c'est tout ça ton ministère. Jésus a fait don de ses hommes. Ses hommes et ses femmes, bien sûr, sont le don pour l'Église. À différencier d'un don, comme la prophétie, la guérison, les paroles de connaissance que Dieu donne, qui n'est pas une personne, c'est un don que l'on reçoit. Très important de faire la distinction. Et je ne vais pas tout lire le passage, c'est un peu long, mais il a fait don de ses hommes, écoutez bien ce petit mot très important, pour que ceux qui appartiennent à Dieu, donc tous les chrétiens, vous tous ce matin, soient rendus aptes à accomplir leur service. Leur service. Ça veut dire que nous, notre job en tant que responsable de l'Église, ce n'est pas de faire tout le boulot, c'est de vous équiper pour que vous fassiez votre service, pour que vous rentriez dans votre appel et pour que vous accomplissiez les œuvres bonnes préparées d'avance, la mission que Dieu a pour vous. Amen. Yes. Ce n'est pas le pasteur qui fait tout. Ce n'est pas le pasteur qui détient tous les dons et toute la vérité. Amen. C'est tellement important, les amis. Et c'est pour ça qu'on a utilisé ce mot leader et qui a créé quelques incompréhensions, mais ce n'est pas grave, il y a différents types de leadership, évidemment. Mais leader, pour moi, dans mon cœur, c'était équipé pour le travail, comme on vient de le lire. C'est vous qui faites le travail, tu as un appel qui t'est propre, voilà, je vous l'ai dit. Et du coup, parce que c'est déjà quasiment l'heure, je voulais finir pour valider un peu tout ce que je vous raconte. Il n'y a pas que moi qui vous prêche cette doctrine ce matin. Luther lui-même, Martin Luther, ce moine qui, à l'origine de la réforme, donc oui, on peut dire que c'est la plus grande division de l'histoire de l'Église, mais c'est aussi un moment d'éveil incroyable pour l'Église qui est revenue à la parole de Dieu. Et en fait, Luther a amené cette doctrine très importante, qui, en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'on est tous leaders, on est tous là. Si tu as vécu quelque chose avec Dieu, si tu t'es converti hier, tu as quelque chose à partager à ton ami. Donc tu es en position de leadership, tu es en position de responsabilité et de mission pour cette personne qui est à côté de toi. Et en fait, donc ce sacerdoce universel. Et en fait, vous savez que l'Église à l'époque, l'Église catholique comme on dit, était vraiment basée sur son fonctionnement sur des sacrements. Et Luther les a plus ou moins tous désavoués, en gros, en disant non, ça c'est pas biblique, ça c'est pas biblique. Il a juste gardé le baptême, le mariage. Du coup, l'Église catholique était complètement bouleversée parce que tous les sacrements, c'était les prêtres qui les rendaient. Et là, d'un coup, du jour au lendemain, ils disaient « Ah, mais toi, tu nous fiches tout en l'air, quoi. On fait plus, ok, bon, ben, on fait plus tout ça. Bon, ben, qu'est-ce que ça veut dire d'être prêtre ?» Et exactement. Luther remet ça en question. Il remet cet ordre établi et du clergé basé sur les sacrements qui ne peuvent être rendus que par les prêtres, se basant sur ce verset. Donc, quel verset ? Toute cette doctrine vient d'un verset de la Bible quand même, 1 Pierre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez foi n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Donc, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et quand vous regardez la signification du mot sacerdoce, c'est un mot un peu compliqué. D'ailleurs, il y a d'autres traductions qui disent autre chose. Mais sacerdoce, ça veut dire la prêtrise. Ça veut dire que nous sommes tous prêtres. En fait, un sacerdoce, c'est un ministère. Et du coup, sacerdoce, vraiment, la traduction, c'est la prêtrise. Donc, en fait, les amis, mesdames et messieurs, je vous l'annonce ce matin, vous êtes tous prêtres et prêtresses. Vous avez tous cet appel, vous avez tous cette autorité qui vous a été donnée alors que vous avez placé votre confiance en Christ. Et donc ce sacerdoce universel, ça veut dire que nous sommes un royaume de prêtres, une race élue. Donc c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde et nous sommes tous responsables en ce sens-là de la croissance de l'Église et plus important que ça, de l'agrandissement du royaume de Dieu. L'Église est l'outil d'expansion du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est son royaume ? C'est sa paix, son amour, sa justice, tout ce qui est les caractéristiques de Jésus. Eh bien, on amène cela en tant qu'Église. Amen. Donc voilà, son but était de sortir les chrétiens de la tutelle cléricale. Et les amis, je pense que nous, en tant qu'évangéliques, souvent on se dit « Oui, mais nous, oh là là, on n'est pas légalistes, on a tout enlevé ». C'est pas vrai, les amis. Combien, et ça c'est le propre de l'homme, de revenir, alors qu'on a été libéré de la loi, de revenir se mettre sous un joug et de rapidement, dans des structures, dire « Ah oui, non mais c'est le pasteur, c'est le... » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tous, nous sommes prêtres. Amen. Voilà. Et un petit verset pour finir. J'espère que j'ai 3 minutes de grâce. Puisque vous êtes 1 Pierre 2, verset 5, « Puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Hein » Pierre réexplique ce qu'il vient de dire. « Chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Parce que bien sûr, notre ministère en tant que prêtre, chacun et chacune ici dans cette salle, c'est d'abord l'adoration de Dieu. C'est notre premier ministère, c'est le ministère pour Jésus, c'est de l'adorer, c'est de l'aimer. Et puis ensuite, bien sûr, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que, désolé les amis, ça veut dire au boulot, au boulot. On est tous là-dedans ensemble. Ça veut dire engagement. Et nous, ben, c'est vrai que des fois, on court un peu après des personnes dans l'église et c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est pas parce qu'on veut taper sur les gens avec une loi ou un tableur Excel. C'est pas ça du tout. C'est parce que on a envie que les gens rentrent dans leur appel. On a envie que tous les Montiliens qui connaissent pas encore Jésus le fassent. Et pour ça, ça demande que chacun s'implique. Amen. Et ça veut dire aussi sacrifice. Ça veut dire choix. Ça veut dire que des fois, ben, on va faire certains choix. Et ça veut dire que dans un monde où on a des smartphones, on a Internet et à l'époque, moi, on en parle, il y a 25-30 ans, quand j'étais à l'église, est-ce qu'on se posait la question tous les dimanches d'aller à l'église ou toutes les semaines d'aller au groupe de maison ? Jamais de la vie. C'était notre quotidien. Mais merci Seigneur, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas toutes ces opportunités chaque jour d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire plein de trucs. C'est génial d'aller à droite, d'aller à gauche. Mais gardons, les amis, le sens des priorités. Tu es prêtre. Tu es prêtresse, tu as un appel. Et bien sûr, cet appel, ce n'est pas dans les quatre murs d'ici, mais ici, c'est le quartier général. C'est là où ensemble on est. Et alors qu'on s'encourage ensemble, là, on est relâché comme des agents secrets du royaume partout où l'on va. Amen. Engagement, sacrifice, prix à payer. Effectivement, des fois, il y a un prix à payer dans nos choix. C'est vrai. Hein, mais je pense qu'il y a une seule personne qui a vraiment payé le prix. C'est Jésus. Lui, il a payé pour nous. Ben, nous, parfois, on a des petits prix à payer parce que lui a payé le grand prix. Et du coup, concrètement, pour nous, comment ça se passe ? On a dit que l'Église était un organisme qui croissait naturellement. Dieu nous a, depuis le début, donné cette vision pour le Dauphiné. depuis le début, donner cette vision pour implanter cette église. Mais les amis, ça ne va pas se faire tout seul. Et c'est pour ça que je vous le rappelle, la multiplication. Aujourd'hui, on a des braises parfois qui se réunissent, ils sont 20, 30, 40. Les amis, on a besoin de leaders de braises. Et moi, je te le dis, mon frère, ma sœur, ce matin, si tu sens un appel pour ouvrir ta maison, si tu sens un appel pour inviter des gens à venir dans ta maison, partager la parole de Dieu, prier pour les malades et les voir guéris et témoigner de cette manière-là, venez nous voir et on va vous former. Et cette multiplication, elle ne se fera pas sans nous, dans tous les cas. Donc, soit c'est des belles paroles, soit on y va ensemble. Amen. Et nous, on est vraiment dédiés à ça, à vous aider à rentrer dans votre appel. Donc, c'est merveilleux, cet ADN de multiplication. Et je finis par ça. Parce que moi, par ma passion pour l'Église et ma passion pour tout ça, et du coup, d'organiser plein de choses et tout, des fois, même moi, je vous le dis, ça m'arrive d'en perdre l'essence de pourquoi on fait ça. Parce que souvent, c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Et des fois, je m'active, je fais ça hier, j'étais en pleine prépa pour cet après-midi et tout. Et d'un coup, je me retrouve vidé. Et d'un coup, je dis, mais en fait, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi on fait tout ça, les amis? Par amour. Par amour, les amis. Par amour pour Jésus. Par amour pour notre Sauveur. Et par amour pour les frères et sœurs. Chacun, nous sommes appelés à aimer Dieu. C'est le plus grand des commandements. S'il y a une chose seule à retenir dans la Bible, c'est d'aimer notre Dieu et d'aimer nos prochains. Et du coup, pour cela, il faut s'aimer nous-mêmes aussi. Ces trois dimensions sont tellement indispensables par amour. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?